Les mystères du Palais Royal, deuxième partie, chapitre 22, la fin. Monsieur de la Tremblay ne fut malheureusement point déçu dans ses prévisions funestes. Au bout de 8 jours, il retourna à l'hôtel du lieutenant de police. Il vit l'œil de lynx et il apprit de lui qu'on n'avait pas découvert la moindre trace de ses 40 000 livres et de ses bijoux, ni de ceux qu'il lui avait dérobés. « C'est une perte, ajouta l'agent, dont je vous conseille fort de prendre votre parti. Car en supposant maintenant que nous puissions arriver à mettre la main sur les voleurs, il est clair comme le jour que le magot aurait disparu. Vous comprenez cela aussi bien que moi. » « Oh !» se dit Raoul en lui-même, « ce que je comprends le mieux, c'est qu'à coup sûr je suis abandonné de Dieu. » Et la mort dans l'âme, ils regagnèrent l'hôtellerie. La position du jeune homme était déplorable en effet. Il se trouvait isolé au milieu de Paris, n'y connaissait personne et serait bientôt sans ressources. Qu'allait-il devenir et comment faire pour vivre quand les quelques louis qui lui restaient seraient épuisés? Raoul se posa sous toutes les formes ces questions désespérantes et il ne put y répondre. 2 mois s'écoulèrent. Le chevalier avait vendu son cheval et aussi le petit bidet de Jacques. Et la minime somme résultant de cette double vente avait servi à défrayer les dépenses du maître et du valet. Car Raoul, malgré sa misère qui s'aggravait chaque jour, ne songeait point à se séparer de son compagnon tant qu'il pourrait lui donner un morceau de pain. Un jour arriva où la dernière pièce d'or fut changée. 3 jours après, la dernière pièce de 24 sous disparut. Puis le maître et le valet eurent faim. Pour la première fois. Vers le soir, Raoul était très pâle. Jacques déroba un pain dans la cuisine et le lui apporta. « Merci, mon enfant, lui dit le chevalier, je ne toucherai pas à ceci.
Pourquoi » « Pourquoi ? » «
Parce qu'il est inutile de prolonger de quelques heures une vie qui me pèse et dont je vais me débarrasser. » « Vous voulez mourir ? » s'écria Jacques avec épouvante. « Je le veux parce qu'il le faut. » « Oh, mon Dieu, monsieur le chevalier, mais ayez donc du courage !»«
J'en ai eu, je n'en ai plus. »«
Attendez, espérez !» Raoul haussa les épaules. « Attendre quoi ? Espérer quoi ? » dit-il. « En supposant que je consentisse à vivre aujourd'hui, ne vois-tu pas que le jour où tu ne trouverais rien à voler, il faudrait mourir de faim ? Non, non, il vaut mieux en finir tout de suite. »
Jacques fondit en larmes.
« Ainsi, vous m'abandonnez ? »
murmura-t-il au milieu de ses sanglots convulsifs.
« Je le regrette, mon pauvre enfant, » répondit Raoul. « Mais franchement, c'est ce qui peut arriver de plus heureux. Aussitôt débarrassé de moi, tu trouveras sans peine une place, sinon bien bonne, du moins grâce à laquelle tu seras sûr de manger chaque jour. » Les sanglots du jeune valet redoublèrent. Son affection pour son maître tenait du fanatisme. Raoul se leva. Il prit son chapeau, il le mit sur sa tête, puis il s'approcha de Jacques et lui tendit la main. « Allons, » lui dit-il en même temps. « Allons. » « Adieu, mon pauvre enfant. » Jacques saisit la main de son maître, s'y attacha et la couvrit de baisers. Raoul essaya de la dégager. Jacques résista. « Adieu, » répéta le chevalier. « Vous partez ?» s'écria l'enfant, oubliant dans sa douleur que les convenances lui défendaient d'interroger son maître.
« Oui, je pars.
Où allez-vous ?
Je l'ignore.
Je vais vous suivre.
Non.
Je le veux.
Je te le défends.
Monsieur le chevalier, je vous en prie. Je vous en supplie.
Je vous le demande à genoux. Laissez-moi vous accompagner.
Non, 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 10 fois non.
Mais pourquoi ?
Parce que je ne le veux pas.
Cette raison est suffisante, j'imagine.
Alors, je vous suivrai sans permission.
Quoi ? Malgré mes ordres ?
Malgré le diable lui-même.
Ne suis-je plus ton maître ?
Non, quand vous sortez pour vous tuer et que vous m'ordonnez de rester ici.
Jacques !
S'écria Raoul avec l'accent de la colère.
Oh ! Poursuivit l'enfant.
Emportez-vous si vous voulez. Frappez-moi si ça vous convient. Cela m'est par Dieu bien égal. Mais à moins que vous ne m'assommiez sur place, je veux vous suivre et je vous suivrai.
Ah, tu veux ?
Oui, je veux. Eh bien, je t'en défie. » Et Raoul, saisissant l'enfant par les deux épaules, mais sans lui faire le moindre mal, le fit pirouetter pendant un instant, et ensuite le jeta sur le lit. Puis tandis que Jacques, tout étourdi du brusque mouvement de rotation qui venait de lui être donné, s'efforçait de se relever, Raoul s'élança, sortit de la chambre, referma la porte, fit tourner deux fois la clé dans la serrure, descendit rapidement l'escalier et se trouva dans la rue. Il était en ce moment 8h30 du soir. À l'époque où se passent les faits que nous racontons, Paris n'était pas comme aujourd'hui une cité magique et lumineuse, qui, lorsque vient la nuit, couronne son front d'une aigrette enflammée et semble plus éblouissante encore au feu du gaz qu'au rayon du soleil. Non, quand arrivait le soir, Paris s'endormait, les pieds dans la boue de ses rues mal pavées et plongé dans une obscurité presque complète. D'abord, on ne connaissait d'autres systèmes d'éclairage qu'un très petit nombre de réverbères, et ensuite ces réverbères ne s'allumaient que quand il n'y avait point de lune. Oh, c'était un bien heureux temps que celui-là pour les voleurs et pour les amoureux. Aussi les uns et les autres, nous prenons sur nous de l'affirmer, s'en donnait-il à cœur joie. Ainsi que Raoul l'avait dit à Jacques, il ne savait pas bien où il allait, il ne le savait même pas du tout. Il voulait en finir avec la vie, mais il ignorait encore quel moyen il choisirait pour accomplir son projet de suicide. Le jeune homme gagna machinalement les boulevards. Nous disons « machinalement », car il marchait à peu près comme un automate dont on aurait réglé les mouvements. Et certes, ce n'était point sa pensée ni sa volonté qui guidaient ses pas incertains. La soirée était fort belle, le ciel était pur, l'air doux et tiède. Sur les boulevards, il y avait foule, une foule animée et joyeuse. Les charlatans attiraient les badauds et les bourgeois naïfs par les sons de leur musique discordante et par les appels ampoulés de leur éloquence criarde. Les escamoteurs faisaient faire cercle autour de leur petite table illuminée par quatre chandelles. On riait, on buvait, on s'embrassait, on dansait, on chantait dans les guinguettes. Des chaises à porteurs et des équipages passaient sur la chaussée. C'était un brouhaha assourdissant, mais rempli d'entrain et de gaieté. Ce spectacle fit mal à Raoul. Dans la disposition physique et morale où il se trouvait, une pareille vue, on le comprend, ne pouvait qu'envenimer ses blessures saignantes et douloureuses. Il lui sembla que tous ces gens qui le coudoyaient étaient riches et étaient joyeux, et qu'ils insultaient par leur attitude et par leur bonheur à sa misère et à sa tristesse. Un instant, il eut la pensée de coudoyer le premier venu, de le provoquer, de dégainer sur le champ, et de recevoir dans un duel la mort après laquelle il courait. Mais une pensée l'arrêta. Il pouvait s'attaquer à un adversaire plus habile que lui, qui le blesserait sans le tuer, et alors ce serait de nouvelles souffrances à ajouter à celles qu'il endurait déjà. Raoul renonça donc à ce premier projet. Il quitta les boulevards et s'engagea dans la rue Montmartre, qu'il suivit dans toute sa longueur jusqu'à la pointe Saint-Eustache. Il gagna le pont Neuf et il s'arrêta, accoudé sur le parapet et regardant la rivière qui reflétait comme un miroir d'acier bruni le ciel étincelant d'étoiles. « Ah !» murmura Raoul, « le hasard m'a conduit ici, ou plutôt, c'est ma destinée. Là est le sommeil, là est l'oubli, là est le repos. Ô Réginald, ô mon noble père, dans un instant je vais te rejoindre, dans un instant je vais te dire tout ce que j'ai souffert ici-bas, depuis le jour où tu m'y as laissé sans toi. » Après avoir adressé cette courte invocation à la mémoire de son père adoptif, Raoul regarda autour de lui, pour voir si rien ne l'empêcherait de conduire à bien sa résolution fatale. Quelques gardes françaises en goguette venaient à lui en festonnant sur le pavé, qui leur semblait gras, et chantaient des refrains un peu plus que gaillards. Raoul attendit. Des grisettes passèrent ensuite au bras de leurs amoureux. Et c'étaient des rires sans fin, entrecoupés de baisers sonores. Raoul détourna la tête, et il attendit de nouveau. Enfin, il se trouva seul. Alors, il posa son chapeau à terre à côté d'une borne et sans même se donner la peine d'ôter son habit et de se débarrasser de son épée, il monta sur le parapet et il s'élança dans la Seine, dont les flots, fouettés par sa chute, se refermèrent silencieusement sur son corps. « C'est fini, pensa Raoul au moment où il se sentit enveloppé dans les plis mouvants de son linceul glacé.
« C'est fini. Je vais mourir. »
Telle avait été la force d'impulsion de la chute du jeune homme, que son corps fendit l'eau jusqu'à sa plus extrême profondeur et qu'il heurta du talon le sol sablonneux qui formait le lit du fleuve. Tous ceux de nos lecteurs à qui l'art de plonger est familier comprendront sans peine que le corps, ayant ainsi touché le fond, remonta à la surface presque aussi vite qu'il était descendu, et que Raoul, en quelques secondes, se retrouva sur l'eau. Le chevalier, nous l'avons dit dans les chapitres où il est question de son enfance, était un nageur de première force. Machinalement, son corps s'allongea. Ses mains, lancées en avant, se touchèrent, tandis que ses jambes s'étendaient parallèlement l'une à l'autre. Puis, ses bras s'arrondirent. Ses coudes vinrent s'appuyer au corps. Ses jambes s'écartèrent avec un vigoureux coup de jarret, et enfin les bras et les jambes, paraissant céder à l'impulsion d'un ressort d'acier, s'allongèrent de nouveau pour recommencer aussitôt le mouvement qu'il venait de faire. Ce qui veut dire que Raoul, sans le vouloir et sans le savoir, se mit à nager vigoureusement, tant était grande chez lui la force de l'habitude. Cela dura 2 ou 3 minutes. Au bout de ce temps, Raoul s'aperçut de ce qui se passait. Elle comprit qu'il allait se sauver malgré lui, car il approchait de la rive avec une vitesse extrême. Ceci ne faisait point l'affaire du jeune homme. Il s'était jeté dans la Seine non pas pour prendre un bain, mais pour se noyer, et il voulait se noyer consciencieusement. En conséquence, il croisa ses bras, il raidit ses jambes, et il se laissa couler de nouveau. Tant que Raoul conserva sa présence d'esprit, tout alla pour le mieux. Seulement, quand il commença à perdre la tête, et juste au moment où l'asphyxie était en bon train, l'instinct de la conservation reprit encore le dessus, et le chevalier se remit à nager, ainsi qu'il l'avait fait auparavant, mais d'une façon plus incertaine et plus irrégulière, car ses forces s'étaient épuisées dans cette lutte qu'il venait de soutenir contre lui-même. Lutte qui, du reste, ne se renouvela pas, car Raoul comprenait désormais que la mort par immersion était une horrible mort, et il se disait qu'il valait 100 fois mieux en finir avec la vie, en se donnant un coup de couteau dans le cœur ou en se logeant dans la tête un coup de pistolet. Une fois résolu à remettre son suicide à un autre moment et à l'effectuer d'une façon différente, Raoul se souleva sur sa couche humide et jeta autour de lui un regard effaré. Il se trouvait alors au milieu de la Seine, assez large en cet endroit, comme on sait. La lueur vacillante des étoiles se reflétait dans l'eau noire, et la distance se doublait par l'obscurité. « Arriverai-je ? » se demanda Raoul, dont la respiration devenait haletante. Et il nagea vers la rive droite. Un engourdissement progressif s'emparait de lui. Des douleurs aiguës et intermittentes traversaient ses articulations et le menaçaient d'une crampe. Ajoutons à tout cela que Raoul était entièrement habillé et que ses vêtements imbibés d'eau s'alourdissaient d'instant en instant davantage. Cependant, il nageait toujours, mais toujours plus lentement. Ses yeux se troublaient. Des paillettes de feu passaient devant ses regards. Il lui semblait qu'il n'avançait pas et que la rive reculait devant lui. Raoul se sentit perdu. Et alors, par un étrange phénomène de la nature humaine, il se reprit d'amour pour cette existence qu'il lui fallait quitter. En ce moment, une étoile lui parut se détacher du ciel, tomber dans la rivière et flotter sur les eaux, en s'avançant vers lui. Cette étoile, faiblement lumineuse, lui montrait la terre à une distance de 15 ou 20 brasses. « Arriverai-je ? » se demanda le jeune homme pour la seconde fois. Et il fit un nouvel effort. Mais ses jambes raidies n'obéirent plus à sa volonté. Ses mains battirent l'eau au lieu de la fendre. Il ne put que se soulever une dernière fois. « À moi ! » cria-t-il d'une voix rauque et agonisante. « À moi ! Au secours !» Et il retomba. Le flot s'ouvrit pour le recevoir, son corps disparut dans le sillon qu'il avait creusé. Presque au même instant, Raoul éprouva une douleur aiguë. On eût dit qu'une pointe de fer labourait son épaule gauche. Cette sensation, courte et terrible, fut la dernière qu'il ressentit. Ses lèvres, involontairement ouvertes, aspirèrent une gorgée qui gonfla sa poitrine. Il crut mourir et il s'évanouit. Chapitre 23. Une nuit de la Seine. Sur la grève qui longe la Seine, à quelques centaines de pas du pont Neuf, et dans cet espace qui s'étend entre la rivière et le quai, il y avait à cette époque deux ou trois misérables baraques, grossièrement construites avec des planches à moitié pourries, provenant de démolitions de bateaux. Ces masures étaient habitées par des gens de mine sinistre et de vie étrange, à moitié pêcheurs, à moitié bohémiens, voleurs par goût, assassins par occasion. Le jour, ils jetaient leurs filets dans la Seine, et ils entreprenaient le sauvetage des noyés. La nuit, ils rôdaient sur les bords du fleuve, y cherchant on ne sait quoi. Ou bien, dans leurs barques légères, ils s'approchaient des grands bateaux marchands, et à la faveur des ténèbres, ils y commettaient toutes sortes de déprédations. Parmi ces bandits amphibies, il y en avait deux de particulièrement redoutables. C'était un homme et une femme. Le mari se nommait Léonard. La femme s'appelait Gertrude. Ils vivaient seuls dans une des huttes crevassées dont nous parlions tout à l'heure, et ils exerçaient de jour et de nuit les plus ténébreuses industries. Ce soir-là, à l'instant précis où Raoul se précipitait du haut du pont Neuf, les deux bohèmes s'apprêtaient à partir pour une de leurs excursions accoutumées. Déjà, ils avaient détaché la chaîne de leur bateau et préparé, outre les rames, une pique accrochée et deux ou trois sacs d'assez grande dimension. Le bruit de la chute d'un corps arriva jusqu'à eux. « Entends-tu ? » dit Gertrude. « Oui, » répondit Léonard. « C'est quelqu'un qui vient de faire un plongeon. »« Allons-nous voir ? » ?»« Ce n'est pas la peine. Le courant de la dernière arche arrive juste là en face. Le corps viendra par ici. Nous n'avons qu'à l'attendre. »« Entre toujours dans la barque. »« Ça peut se faire. Va chercher un falot. » Gertrude retourna à la cahute. Elle y prit une torche résineuse qu'elle alluma et qu'elle plaça à l'arrière de la petite embarcation. Ce falot était l'étoile lumineuse que Raoul avait cru voir se détacher du ciel. Gertrude prit les rames, dont elle ajusta les anneaux de fer dans les tollets. Léonard se plaça debout sur la pointe du bateau, tenant à la main sa pique à crochet. Puis, ils restèrent immobiles tous les deux, silencieux et attentifs. Soudain, ils entendirent le bruit entrecoupé de la respiration haletante de Raoul et le clapotement de l'eau agitée par ses mains. « Pousse !» dit Léonard à sa femme. Gertrude appuya sur les rames. Le bateau s'éloigna de la rive. En ce moment, M. de la Tremblay, épuisé, poussa un cri d'appel et disparut. « Pousse !» dit Léonard pour la seconde fois. « À gauche et ferme !» Le bateau glissa rapidement. Léonard enfonça sa pique dans l'endroit où le flot venait d'engloutir le jeune homme. Du premier coup, il rencontra le corps et le harponna, si nous pouvons ainsi parler. Le crochet traversa les vêtements en déchirant légèrement l'épaule. De là cette douleur que Raoul avait ressentie avant de s'évanouir. Une demi-minute après, il était étendu au pied des deux bohèmes. Gertrude changea la direction du bateau et lui fit regagner le rivage. Léonard prit M. de la Tremblay dans ses bras et le porta dans la masure. Gertrude les suivit en tenant le falot. Puis, une fois dans l'intérieur, elle ferma soigneusement la porte. Cet intérieur semblait lugubre. Il respirait la misère honteuse et infecte, la débauche, le vice et le crime. Nous savons déjà que la cahute était construite en planches à moitié pourries et grossièrement assemblées. Des toiles d'araignée épaisses et poudreuses en tapissaient le plafond et les parois. Sur une corde tendue en travers étaient étalés des vêtements en haillons et des logs infâmes. Une futaille, posée debout, se trouvait au milieu de la pièce unique et servait de table. Cette futaille supportait un broc vide, une fiole d'eau-de-vie à moitié pleine et deux gobelets d'étain tout bossués. Le lit consistait en une paillasse en putréfaction recouverte de chiffons immondes. Il n'y avait ni drap, ni couverture. Des débris d'aliments jonchaient le sol. Dans un coin étaient entassés des os et des carcasses d'animaux, des têtes et des arêtes de poissons. À côté du lit se voyait un vieux mousquet, et sur une douve de tonneau, placée en manière de rayon, se trouvait une corne de bœuf remplie de poudre, quelques balles et deux ou trois couteaux de dimensions différentes. Rien ne saurait donner une idée exacte de l'odeur âcre et fétide et de l'insupportable puanteur qui régnait dans ce taudis abject. C'était à asphyxier en 5 minutes l'homme le plus vigoureux et le mieux constitué. C'était à soulever d'horreur et de dégoût le cœur le plus robuste et le mieux endurci. Gertrude, avons-nous dit, referma la porte. Léonard se débarrassa du corps de Raoul en le jetant brutalement sur le grabat. Chapitre 24. Les bandits. Gertrude tenait toujours son falot. Elle s'approcha de Monsieur de la Tremblay, dont elle éclaira le visage. Léonard se pencha pour regarder de plus près celui qu'il venait de sauver. Le groupe formé par ces trois personnages était en ce moment bizarre et presque effrayant. Raoul, étendu sur ce lit immonde dont nous avons parlé, ressemblait à un cadavre bien plus qu'à un être vivant encore, tant sa pâleur était livide et bleuâtre. Ses longs cheveux, ruisselants d'eau, cachaient une partie de son front et se collaient au long de ses joues. Gertrude semblait la fidèle personnification de ces bohémiennes des Highlands, dont le pinceau de l'immortel Walter Scott nous a tracé de si merveilleux portraits. Elle portait une jupe de laine brune tout effrangée par en bas et souillée de boue et de vin. Une sorte de mante, d'une couleur et d'une étoffe indéfinissables, entourait son buste grêle et déjeté. Elle était coiffée d'un large mouchoir écarlate, noué en forme de turban, et duquel s'échappaient quelques longues mèches de cheveux gris qui jouaient comme des serpents autour d'un visage anguleux et brisé, aux traits durs et irréguliers, à l'expression farouche, et dont les petits yeux gris et ronds ressemblaient à ceux d'un oiseau de proie. Cette horrible vieille, le corps à demi courbé, tenait son falot d'une main noueuse et crochue. Léonard, haut de près de 6 pieds et d'une force athlétique, était tout à la fois grotesque et terrible dans sa laideur de bandit. Ses bras un peu courts et que laissaient à nu jusqu'à l'épaule les manches retroussées de la chemise étaient massifs comme les cuisses d'un homme bien proportionné. Un réseau de muscles énormes et de veines grosses comme le doigt se voyait sous sa peau brune et velue. Ses genoux paraissaient noueux à cause de leur largeur exagérée. Une culotte de drap bleu, raccommodée en 100 endroits, couvrait ses jambes massives et outrageusement cagneuses, terminées par des pieds de la plus invraisemblable largeur. Une très petite tête, d'une physionomie féroce et coiffée d'un tricorne exigu, surmontait les épaules de ce géant difforme. Léonard, nous le répétons, se pencha pour regarder Raoul. « Tiens, dit-il, il est jeune, mon noyé. »« Et joliment beau garçon, murmura Gertrude. « Ah, tu trouves ? Ma foi, oui. Dis donc, femme, est-ce que tu te sentirais un caprice à son intention ? Demanda Léonard avec un ricanement cynique. « Dame, on ne sait pas. Alors, dépêche-toi de le passer, ton caprice. Il n'est que temps. » « Pourquoi ça ? C'est mon idée. Est-ce qu'il n'en reviendra pas, ton noyé ?
Ça dépend.
De quoi ?
De nous.
Comment ?
Au fond, il n'a pas grand mal, ce jeune homme. Et si nous voulons, dans 5 minutes, il gigotera comme toi et moi. Si nous ne voulons pas, au contraire, il n'y a qu'à le laisser aller, il trépassera sans rouvrir l'œil.
Voudrons-nous ?
Certainement, si c'est notre intérêt.
Ça l'est-il?
Il faut voir.
Voyons tout de suite.
Léonard se mit à rire.
Ah, vieille drôlesse, s'écria-t-il. Comme t'es pressé. Comme tu prends feu.
Tu t'imagines donc que ce mignon gentilhomme, car c'en est un pour sûr, peut entendre ce que tu dis et qu'il va t'offrir son cœur par reconnaissance?
Tout ça, c'est des bêtises, répondit Gertrude. « Dis-moi ton idée, vieux farouche.
Et ensuite, si ça peut nous rapporter n'importe quoi de nous débarrasser de ce noyé-là, je serai la première à l'empoigner par les pattes pour le reficher à l'eau. »«
À la bonne heure. »«
C'est ça, parler, ma mignonne. »«
Eh bien, mon idée la voilà. » Ce beau cadet ne s'est point jeté dans la rivière pour y trépasser volontairement, j'imagine, puisqu'il se débattait tout à l'heure comme un diable dans un bénitier. » Et qu'il criait à l'aide de toute la force de ses poumons. Peut-être bien que quelque mari contrarié lui aura fait faire un plongeon afin de n'en plus entendre parler. Nous allons le fouiller.
Si, comme je n'en doute guère, il y a de l'argent dans ses poches, nous le lui prendrons. Et comme un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras, nous le laisserons paisiblement tourner de l'œil, ce qui nous évitera des réclamations de sa part. Si, au contraire, les poches sont vides, nous l'aiderons à revenir, et nous aurons au moins la chance qu'il nous récompensera plus tard de notre bonne action. On voit quel raisonnement bizarre la vie de Raoul tenait en ce moment, comme à un fil. Il était dans la destinée de notre héros de se trouver sans cesse en dehors des conditions habituelles de l'existence humaine. L'argent, presque toujours, aide à sortir des plus mauvais pas. La misère du jeune homme, au contraire, allait devenir la seule chance de salut qui lui resta. Gertrude approuva de la façon la plus complète la manière ingénieuse dont son mari envisageait la chose. Léonard, satisfait de cette approbation, dont il se serait cependant passé sans le moindre scrupule, commença séance tenante à fouiller les poches de Raoul. Nous savons déjà que ses poches étaient parfaitement vides. « Tonnerre ! » s'écria le bandit quand il eut achevé sa perquisition. « Nous sommes volés !»«
Quoi ? » demanda Gertrude.
« Pas seulement un écu ?»«
Pas seulement un sou. Avant de se jeter à l'eau, le gredin avait tout dépensé exprès pour nous faire tort.
Le brigand !»«
À moins, dit Gertrude, qu'il n'ait été dévalisé tout à l'heure sur le pont neuf. »«
C'est encore possible, dame.
À tout hasard, je m'en vais le ressusciter. » Il nous dira ce qu'il en est lui-même, tout à l'heure. »
Et Léonard, tout en parlant, souleva par les deux jambes le corps de Raoul, afin d'en changer la position. Dans ce mouvement, la main gauche du jeune homme, cachée jusque-là par la basque de son habit, se montra à découvert.
« Regarde !» fit vivement Gertrude.
« Quoi ?» demanda Léonard.
« Un diamant !»«
Où ?»«
Là !»
et Gertrude désignait la main de Raoul.
« Tiens !» s'écria Léonard. « C'est vrai ? Et moi qui ne l'avais pas vu ?»
Au doigt annulaire de sa main gauche, Raoul portait en effet un petit diamant qui pouvait valoir 3 ou 4 louis et dont il n'avait pas même songé à se défaire, d'abord parce qu'une si minime ressource ne pouvait le mener bien loin, ensuite et surtout parce que c'était le dernier objet qui lui vint d'original et qu'à ce titre, il le considérait comme une véritable relique. Cet humble bijou suffit cependant pour enflammer la cupidité de Léonard. Il prit la main de Raoul et il s'efforça de faire glisser l'anneau pour s'en emparer. Mais les doigts étaient tellement gonflés et raidis qu'il ne put venir à bout de son entreprise. L'anneau entrait dans la chair et voilà tout.
« De par le diable !» murmura le bandit en laissant retomber la main. « Il n'y a pas moyen !»«
Imbécile !» s'écria Gertrude. « Je sais bien ce que je ferai à ta place !»
« Que ferais-tu ?
Je couperai le doigt. »«
Tu as ma foi raison, ma vieille. Passe-moi un couteau. »
Gertrude prit sur la douve qui servait de rayon un des couteaux qui s'y trouvait et elle le tendit à son mari. Léonard s'assura que le tranchant était bien effilé et il se mit en devoir d'entailler le doigt de Raoul. Mais l'acier, en mordant les chairs, produisit un effet sur lequel le bandit n'avait pas compté. La douleur aiguë amena une réaction soudaine et complète. L'évanouissement de Raoul cessa aussitôt, et le jeune homme, encore livide, se dressa sur ses jambes en poussant un grand cri et en secouant sa main à demi mutilée. Gertrude recula de quelques pas avec épouvante. Léonard leva son couteau et instinctivement se mit en défense. Raoul regarda autour de lui. Il vit l'étrange demeure dans laquelle il se trouvait. Il vit les sinistres visages de ceux qui lui en faisaient les honneurs. Il vit sa main saignante, ses vêtements mouillés, et il se souvint de ce qui s'était passé depuis une heure. Et il comprit tout.
« Qui êtes-vous » demanda-t-il à Léonard et à Gertrude.
« Nous sommes des pêcheurs, et nous vous avons retiré de l'eau, » répondit le bandit.
« Que voulez-vous de moi ?
Nous voulons cette bague.
Et c'est pour l'avoir que vous me coupiez le doigt ?
Oui.
Cruauté infâme ! S'écria Raoul.
Nous vous croyons mort.
C'est un mensonge.
Comme il vous plaira.
Et maintenant que vous me voyez vivant, exigez-vous encore cet anneau?
Plus que jamais.
Misérable.
Calmez-vous, mon gentilhomme, et donnez-nous ce petit joujou.
Je vous le refuse.
Nous l'aurons tout de même.
Comment?
En le prenant.
Malgré moi. Parbleu ! Bandit ! Pas de gros mots, et exécutez-vous de bonne grâce. Sinon, gare à vous.
Vous me menacez, je crois ?
Mais oui. Vous ne songez donc pas qu'une fois hors d'ici, je puis vous dénoncer à la justice, et que je le ferai certainement ?
Vous le pourriez, sans doute, si vous sortiez d'ici.
Eh bien ? Eh bien, vous n'en sortirez pas.
Et qui m'en empêchera ?
Moi. Et que ferez-vous pour cela ?
Mon Dieu, je vous tuerai tout bonnement.
C'est un fameux moyen que celui-là. Allez, quoique bien simple, et qui ne manque jamais son effet.
Tout en parlant ainsi, avec le ricanement infernal dont il avait l'habitude, Léonard fit un pas à l'encontre de Raoul. Ce dernier glissa sa main droite sous la basque de son habit et tira son épée, que par un effet du hasard ou par une faveur spéciale de la Providence, il n'avait pas quitté, on s'en souvient, en se précipitant dans la Seine. Le bandit ne remarqua point le mouvement du jeune homme et se jeta sur lui. Il se heurta contre la tige d'acier, longue et acérée, de l'arme de Raoul. Le choc avait été violent. L'épée traversa la poitrine et ressortit entre les deux épaules. Le couteau s'échappa des mains de Léonard, qui fit deux ou trois tours sur lui-même, battit l'air de ses bras et s'affaissa ensuite au milieu d'une mare rouge et écumeuse, formée par le sang qui jaillissait de sa large blessure. Un cri rauque et inarticulé s'échappa de ses lèvres. Une dernière convulsion agita ses membres gigantesques et les tordit comme le feu tord un sarment qu'on jette dans des braises ardentes. Puis ses yeux tournèrent dans leurs orbites. Une contraction suprême bouleversa les traits de son visage, sa blessure se referma d'elle-même et le sang cessa de couler. Tout était fini, Léonard était mort.